M. Couture, dans un autre dossier, et ça c'est un dossier national, vous avez parlé de rachat d'entreprises et de diminuer la paperasse.
Oui.
Racheter des entreprises, lesquelles?
Ben écoutez, on parle beaucoup des entreprises familiales. Ça, ce qu'on veut, c'est diminuer là le fardeau administratif, le fardeau réglementaire auquel font face les jeunes qui veulent racheter des entreprises de leurs parents.
Les fermes, entre autres.
Les fermes, entre autres, les PME. Ouais. Il y en a beaucoup. Et moi, j'ai rencontré là des propriétaires de dépanneurs qui disent, moi, j'aimerais ça là que ma fille, mon fils reprennent mon entreprise, mais elle a pas les sous pour racheter. Puis je peux pas y donner. Légalement, je peux pas y donner. Alors, il faut que je lui vende, mais elle a pas les sous. Alors, ce qu'on veut, c'est les soutenir, que ce soit par des subventions ou par des prêts qui ont plus de bon sens que ce qui est offert actuellement.
Sur le marché financier régulier, c'est ce que vous voulez dire, là.
Notamment.
Parce que, comme on dit en bon québécois, si tu passes pas à la banque ou si tu passes pas à la caisse populaire, il y a habituellement des raisons à ça. Vous vous dites, parmi ces raisons-là, il y a le fait qu'on n'a peut-être pas la capacité d'emprunter, c'est ce que vous dites. Et le gouvernement pourrait aider.
Le gouvernement pourrait aider, tout à fait.
OK. Oui. Subventionner, donc, le transfert d'entreprise à l'intérieur de la famille.
À l'intérieur de la famille.
On parle strictement de parents-enfants à ce moment-là?
Ben, écoutez, je pense que c'est ce qu'on rencontre le plus, mais je pense qu'il faut aussi ouvrir, ça pourrait être un autre membre de la famille, mais je pense que la principale problématique qui est rencontrée, c'est le transfert d'entreprise de parents à enfants.
Ouais. Quand on parle de diminuer la paperasse, diminuer la bureaucratie, je refais le lien avec l'environnement qui est un gros fer de lance. Évidemment, à l'environnement, la réponse qu'on va toujours donner, je pense, c'est un instant. En environnement, on peut pas aller vite. Il faut faire les vérifications. Il faut. En fait, c'est le ministère de l'Environnement qui va venir vous rappeler qu'il faut protéger l'environnement. Je fais un peu de surf là-dessus avec le dossier de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup dit, nous autres, à Rivière-du-Loup, on a des projets, mais c'est le ministère de l'Environnement qui arrête pas de nous retarder. À quelle place que vous vous situez, M. Couture, entre le fait que on diminue la paperasse, on accélère les dossiers, puis on veut protéger l'environnement. Mais semble que, oui, ça peut se raccorder, mais je vous demande comment.
Ben moi, je pense que ça se raccorde très bien. Il y a des endroits au Québec où les décisions qui prennent ici 4 ans à tomber prennent quelques mois. Et je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il y a, je vous dirais, plus dans l'Est du Québec, dans le coin de Rimouski, là, les mêmes décisions, là, elles sont beaucoup moins longues.
Ah oui? Pourquoi? Ben, écoutez, à votre avis?
Et pourquoi?
C'est le même monde, c'est le même, c'est-à-dire, c'est le même ministère,
c'est le même ministère, c'est peut-être pas les mêmes personnes.
Ouais.
Écoutez, moi, je pense qu'il y a un travail à faire, puis on doit investir dans le ministère de l'Environnement, parce que c'est possible de rendre les décisions plus rapidement. C'est possible de s'assurer de protéger notre environnement, mais aussi de favoriser le développement de parcs industriels, d'entreprises, de municipalités. Moi, je pense que c'est pas impossible. Faut juste avoir la bonne volonté puis donner les lignes directrices comme gouvernement à nos ministères.
Si on favorise l'environnement, est-ce qu'on favorise aussi l'implantation de parcs industriels qui contient ce qu'on pourrait appeler de l'industrie lourde? Parce que quand on parle de parcs industriels régional dans la MRC de Rivière-du-Loup, juste pour faire les deux extrêmes, si on veut, le parc technologique serait à Rivière-du-Loup, pas loin de Premier Tech, puis le parc industriel de l'industrie lourde serait à Kakuna. Si on a une préoccupation environnementale, est-ce qu'on en veut encore des parcs industriels d'industrie lourde?
Écoutez, les choses évoluent. Hein? Il y a des façons maintenant, aujourd'hui, de s'assurer de diminuer l'émission de gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'industrie lourde, oui, il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que ça, c'est important de s'assurer qu'on respecte ce qu'on respecte au niveau des industries lourdes, qu'on respecte vraiment l'environnement. Et je pense que ça, c'est important. Toutes les industries sont importantes, M. Saint-Pierre, mais il faut s'assurer vraiment que ça se fait dans le respect de l'environnement.
Ouais. La Maison des Jardins de soins palliatifs a un projet de centre de jour. Je répète tout le temps la même affaire avec tous les candidats. Une construction, un ajout qui tourne autour de 600 millions. À l'heure actuelle, en financement, 250 000 piastres du phare, 250 000 venant du phare, 250 000 venant d'une fondation privée. Mettons qu'il manque 100 000. 150 000 piastres par année de budget de fonctionnement. La Maison des Jardins de soins palliatifs pose la question. Une fois qu'on va être rendu au budget de fonctionnement, est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois appuierait, je dirais, sans réserve, étant donné que les preuves sont faites de la nécessité d'une maison comme celle-là?
Écoutez, ce qu'on souhaite au Parti québécois, c'est soutenir les soins et les services aux plus vulnérables. Et c'est indéniable pour nous qu'on soutiendrait cette mission-là. Alors, je pense que c'est important. Je pense que c'est une maison de fin de soins de fin de vie. Et écoutez-moi, je comprends pas comment ça n'a pas été encore accordé.
Oui.
Simplement.
Non, mais c'est juste que le dossier est probablement pas rendu là, là. Hein? On n'est pas encore rendu là concernant toutes les étapes à franchir. Mais c'est important de savoir que t'as beau avoir le financement, si t'as pas le budget de fonctionnement, t'opères pas. Les horaires de faction.
Oui.
Les horaires de faction, ça, pour à peu près 90% du monde qui nous écoute ce matin, là, ils savent même pas de
ils
quoi on
pas
parle.
C'est quoi. Non.
Sauf que s'ils appellent le 911 et qu'ils veulent avoir une ambulance chez eux, ils se doutent pas que l'horaire de faction, puis l'ambulancier qui attend que le téléphone sonne à la caserne, là, ça va faire une différence dans sa vie. Sauf que, à venir jusqu'à maintenant, les horaires de faction, on a commencé à régler ça de manière, je dirais, partielle,
oui,
dans certaines villes, dans certaines régions, mais c'est pas l'uniformité au Québec, puis c'est surtout pas l'uniformité au KRTB. De quel bord vous penchez?
Moi, écoutez, je suis du bord du gros bon sens. En 2007, vous savez, 2007-2008, il y a eu des budgets qui ont été donnés pour mettre fin aux horaires de faction. Et à ce moment-là, moi, j'étais président régional de la CSN. Et j'ai milité pour qu'on mette fin à ces horaires-là. Parce que ça n'a pas de bon sens que ça prenne 7 à 12 minutes de plus pour les gens qui vivent dans certaines parties de notre circonscription à avoir des services ambulanciers d'urgence.
Ouais.
Écoutez, j'ai rencontré deux fois plutôt qu'une les ambulanciers de Trois-Pistoles pour les Basques et ceux du Témiscouata, et c'est criant pour eux. Ce qu'ils souhaitent, là, c'est être capable de donner les meilleurs services à la population. Et moi, je pense qu'en 2018, ça n'a pas de sens qu'on ait encore des gens qui attendent à la maison plutôt qu'à la caserne avant de donner des soins. Et moi, ben écoutez, mes convictions, je vous parlais de mes convictions 2007-2008, mes convictions ne changent pas au gré des vagues.
Mm-hmm.
Alors, c'est clair que moi, que je sois élu au pouvoir, que je sois élu dans l'opposition, que je sois pas élu du tout,
ouais,
je vais continuer à militer pour qu'on abolisse les horaires de faction et qu'il y ait des horaires à l'heure, parce que la vie de quelqu'un qui vit au Témiscouata, qui vit dans les Basques, ben, ça a le même prix que la vie de n'importe qui.
Monsieur Couture, je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter les nouvelles hier à Radio-Canada, entre autres, qui en parlaient, mais Québécois en avait parlé bien avant concernant le dossier éolien, le projet Apuiat dans le Grand Nord. Bon, Québécois avait déjà fait des liens entre d'anciens administrateurs d'Hydro-Québec qui étaient devenus des gens maintenant à la solde du développement éolien. La question que je vous pose concernant le développement éolien, M. Couture, par rapport à tout ce qui se dit, à tout ce qui s'écrit, par rapport à nos surplus d'inventaire en termes d'électricité, j'ai de plus en plus de difficultés à comprendre comment les politiciens, aveuglément, continuent d'appuyer le développement éolien malgré les avis d'Hydro-Québec. C'est un peu comme si on avait un chemin sur lequel on circule, et là, c'est le chemin qu'empruntent les politiciens. Quand ils regardent à gauche, ils voient un ciel bleu magnifique avec du soleil, puis la mer qui brille, puis tout ça. Et c'est ce côté-là de la route qu'ils veulent nous montrer, alors que de l'autre côté de la route, ils marchent à côté d'un précipice énorme. Comprenez-vous? C'est comme si les politiciens avaient une vision qui se sépare. On refuse de voir qu'on produit de l'électricité qui ne nous sert absolument à rien, mais qui en plus a des coûts faramineux en termes de pertes, et on ne s'occupe que de ce que ça rapporte en termes de redevances aux communautés. Franchement, je vous comprends pas, vous les politiciens.
Ben, je veux pas que vous généralisiez, parce que d'abord.
Ben, vous êtes pour le développement éolien.
On est pour.
Je suis obligé d'en faire une généralité, là.
Écoutez, vous savez, puis vous l'avez nommé, je pense que c'est important, c'est plus de 2 millions en retombées à chaque année, les parcs communautaires éoliens qu'on a fait. Ouais. C'est le gouvernement du Parti québécois qui a fait en 2013, faut pas l'oublier. Et nous, on n'est pas pour le développement à tout prix. D'abord, c'est important, le développement éolien, dans la mesure où les éoliennes, elles sont construites ici. On les importe pas de la Chine, là. On les fait au Québec. Donc, c'est des jobs au Québec.
Mais là, vous êtes en train de me montrer le ciel bleu, la mer et le beau soleil. Puis de l'autre côté, il y a le précipice.
Mais moi, j'appelle pas ça un précipice.
Qui est le déficit abyssal par rapport à ce qu'on perd à Hydro-Québec.
J'appelle pas ça un déficit abyssal parce que la demande pour l'énergie renouvelable et verte, elle est en hausse de la part des Américains. Les Américains, ce qu'ils souhaitent, s'il y a des nouveaux projets, là, puis particulièrement les gens du Vermont, si on vend de l'électricité au Vermont, là, ils veulent qu'elle soit verte, comme leur montagne.
Mais donc, pourquoi Hydro-Québec, le spécialiste en électricité de la province, la vache à lait du gouvernement, pourquoi les autres, ils disent non? Expliquez-moi ça.
Mais écoutez, moi, là, ce que je vous dirais, le nouveau parc éolien sur la Côte-Nord, là, dans le Nord, là, on est en faveur.
Ouais.
Ce qu'on souhaite, c'est de dire, tant qu'il n'y aura pas de demande supplémentaire, après ça, on n'en fera pas. Quand il y en aura de la demande supplémentaire, là, on construira des nouveaux parcs éoliens. On n'est pas, je pense qu'on n'est pas pour ou contre, on est, je pense qu'on est pour la logique, on est pour le fait qu'il ne faut pas, il faut être raisonnable, il faut être sérieux.
Mais la logique à ce moment-ci, M. Couture, si je vous reprends là-dessus, la logique commanderait qu'on arrête, là. Arrêtons d'en faire plus. On en a déjà trop, puis celui-là, il n'est même pas commencé.
Celui-là, il est en train de commencer.
Non, mais je veux dire, il produit pas, là.
Il produit pas, mais il est en train de commencer.
Ouais. Ouais.
Alors, après celui-là, on va étudier. Et nous, ce qu'on pense, puis le calcul qu'on fait, c'est que la demande venant des Américains, elle va augmenter parce qu'ils sont pas en mesure d'être aussi bons que nous autres en matière d'électricité.
Ouais.
Et ça, il va y avoir une demande. Et quand il y aura la demande, ben, on ouvrira les vannes pour des nouveaux projets.
Dernière question, M. Couture, parce que le temps est écoulé. On a même un peu dépassé. Concernant le calendrier scolaire. Ça, j'aime ça, qu'on parle de la modification du calendrier scolaire, pour une raison qui est bien simple. Je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas été encore capable d'arriver à le faire? C'est-à-dire, la mouvance de l'emploi étudiant viendrait, puis là, je suis pas en train de parler de la relâche, là, tu sais, de faire coïncider la relâche avec un meilleur temps de vacances. C'est pas de ça qu'on parle, là. On parle de la main-d'œuvre étudiante qui quitte beaucoup trop tôt et qui fait en sorte que une partie de l'économie touristique tombe à plat avec la... C'est de ça dont on parle.
Oui, tout à fait.
Bon, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de le faire avant? Puis comment ça se fait qu'un gouvernement du Parti québécois serait capable de le faire dans les meilleurs délais?
Ben, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de le faire avant? Je pense que la réponse est claire. On s'y est peut-être pas assez attardé. Moi, je pense... Puis moi, ce que je propose, c'est une vision de travailler en équipe. Il faut travailler en équipe avec les commissions scolaires, avec l'association touristique, avec le cégep aussi. C'est important. Puis je pense qu'il y a moyen de discuter de certaines choses. Écoutez, il y a des étudiants là qui, à la période des fêtes, sont en vacances 4 à 6 semaines, des fois.
Ouais.
C'est long, hein? Ouais. Fait qu'il y a peut-être moyen de changer le calendrier scolaire puis s'assurer que ça correspond davantage aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie touristique. Parce qu'effectivement, vous savez, souvent à la mi-août, à fin août, ben il y a plein d'entreprises, puis on l'a vu cette année, hein, au Témiscouata, au Basse, puis ici à Rivière-du-Loup, des gens qui sont obligés de plus offrir de dîner sur l'heure du midi parce qu'ils n'ont plus de cuisiniers, ils n'ont plus de personne pour le servir. Ça n'a pas de sens.
M. Couture, faut que je vous laisse aller parce qu'on doit être à veille de m'envoyer un Facebook pour dire que je suis en train de vous favoriser.
Ah ben écoutez, j'aurais pris encore une couple de questions, M. Saint-Pierre.
Je sais. Il est déjà 8h39. M. Couture, merci, bonne fin de travail.
Merci à vous.
Plaisir.